podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et je vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. Je reçois aujourd'hui un historien, il s'intéresse à la vie intellectuelle et culturelle en France au XXe siècle et plus particulièrement durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Jacques Cantier.
Bonjour à vous.
Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès et chercheur donc au laboratoire FRAMESPA, France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur de l'UT2J. On pourrait croire, Jacques Cantier, qu'il n'y a plus ou très peu de vie culturelle en temps de guerre et elle continue pourtant d'exister durant cette Seconde Guerre mondiale, mais c'est une vie culturelle à deux visages, non ? Notamment à partir de 40.
Oui, alors c'est vrai que la vie culturelle d'abord a été ralentie par l'entrée en guerre, les quelques mois de ce qu'on appelait la drôle de guerre, entre septembre et mai 1940, entre septembre 39 et mai 1940, qui est le moment du début de l'offensive allemande. Ensuite, il y a une rupture de quelques semaines, effectivement, qui correspond à cette période de l'invasion du territoire et de la signature de l'armistice. Donc là, toute la vie culturelle passe à ce moment-là effectivement à l'arrêt. Les éditeurs, les patrons de théâtre, les cinéastes arrêtent leur activité pendant l'été 1940. Mais assez curieusement, dès l'automne 40, dès la fin de l'été 1940, on voit effectivement une renaissance de cette vie culturelle avec effectivement deux visages, puisque la vie qui est autorisée à renaître, c'est une vie sous contrôle. Sous le contrôle de l'occupant, avec tout son appareil d'occupation et d'encadrement de la vie culturelle, et sous le contrôle de Vichy, le régime qui est né de l'armistice et qui entend lui aussi encadrer la vie culturelle. Donc ce qui est visible, ce qui est officiel, c'est ce qui accepte de passer sous les fourches de ces deux censures. Et puis pour ceux qui refusent ces deux censures, il faudra trouver, mais progressivement, des formes d'expression qui vont s'orienter vers la clandestinité.
Alors justement, vous parliez de la censure, ça veut dire que sous l'occupation, il y a des personnes qui sont dédiées à vérifier ce qui se produit au niveau culturel et intellectuel.
Oui, il y a deux systèmes de censure parallèles. Le système de censure allemand qui est installé à Paris. On a un service qui s'appelle le service de la propagande Abteilung, qui dépend à la fois des troupes d'occupation militaire et du ministère de la propagande de Goebbels en Allemagne. Donc il y a deux donneurs d'ordre pour ce service. Et ce sont des officiers allemands installés à Paris qui encadrent chacun la vie littéraire, la vie théâtrale, la vie cinématographique. Aucun film ne peut sortir sans un visa de censure. Aucun spectacle ne peut être monté sans un visa de censure de l'occupant pour la zone occupée. Et puis de l'autre côté de la zone occupée, en zone sud, on a aussi des services de l'information de Vichy qui ont des services dédiés à la censure, là aussi sur les livres, sur le cinéma. Donc ce sont ces deux systèmes qui s'ajoutent avec des objectifs qui sont parfois convergents, parfois spécifiques. La censure de Vichy est une censure très morale, qui s'inspire d'un ordre moral à rétablir. La censure allemande est avant tout une censure de contrôle de l'opinion publique et de soumission des esprits aux intérêts de l'occupant.
En tout cas, la production de cette vie culturelle, elle marche même plutôt bien, officielle j'entends, la vie culturelle officielle, elle marche même plutôt bien. Il y a des sociétés qui se créent, et notamment une société de production de cinéma qui s'appelle la Continentale,
oui,
qui va devenir importante.
Oui, il y a effectivement une reprise de cette activité, une reprise sous condition. Pour le monde du cinéma, la condition des autorités allemandes, c'était l'installation de cette nouvelle société à capitaux allemands, la Continentale. Et l'idée était que le cinéma français pourrait reprendre son activité si la Continentale était en mesure de recruter de son côté des metteurs en scène, des acteurs, de sortir des films. Donc la renaissance là, de la vie cinématographique était conditionné à l'installation de cette société allemande, voulue par Goebbels et dirigée par un personnage qui s'appelle Alfred Greven.
Mm-hmm. Lui, il ne va pas forcément suivre. J'ai lu les grandes directives allemandes. Enfin, d'ailleurs, il ne s'entendait pas très, très bien avec la censure allemande, manifestement.
Alors, lui a des ordres de Goebbels et Goebbels lui dit la France doit être une puissance de deuxième rang d'un point de vue culturel, donc on ne va pas contribuer à la continentale à faire renaître une culture concurrente à la culture allemande. Produisez de la guimauve, produisez des films qui vont endormir l'opinion publique. Et Greven, lui, doit gérer cette société et son intérêt est que la société réussisse. Donc malgré les ordres de Goebbels, il va essayer de s'entourer de gens de talent, comme Clouzot par exemple, qui va être chargé d'examiner les scénarios et qui va devenir lui-même réalisateur pendant cette période. Donc il y a effectivement des stratégies qui ne sont pas totalement harmonisées entre Goebbels qui veut enfoncer la France dans une espèce de torpeur culturelle et Greven qui a une société à faire fructifier et qui se dit qu'il le fera en faisant appel au talent de l'époque.
J'ai vu que parmi les acteurs qui ont été produits par la Continentale, il y avait Fernandel, il y avait Rému, même Gérard Philippe.
Pierre Freinet également sera dans beaucoup des films
de Clouzot.
De Clouzot et de la Continentale.
Côté clandestin, il se passe aussi des choses au niveau culturel, notamment dans le domaine de l'édition sur lequel vous avez beaucoup travaillé, avec la création des éditions de Minuit. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la création de ces éditions de Minuit ?
Alors là, effectivement, on est hors de la sphère officielle. C'est quelque chose qui se fait donc de façon plus difficile, plus progressive. Il faut contourner le contrôle des autorités d'occupation. Mais à partir du milieu de l'année 41, on a quelques personnages qui veulent échapper à la censure en place. Il y a Pierre de Lescure, qui est un journaliste. Alors c'est le grand-père du journaliste cinématographique Pierre Lescure, qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a celui qui va devenir l'écrivain Vercors, c'est Jean Brulaire qui prend le nom.
Le silence de la mer.
Voilà, Le silence de la mer, qui sera le premier titre publié par les éditions de Minuit. Ils vont se rapprocher d'un personnage très important dans l'édition qui est Jean Paulhan, qui est un des collaborateurs importants de Gaston Gallimard, la plus grande maison d'édition française à cette époque, qui a le carnet d'adresses littéraires sans doute le plus prestigieux de la période. Et l'effort de ces hommes, les contacts qu'ils vont établir vers certains écrivains qu'ils sentent proches de la résistance, va permettre effectivement, à partir du début de l'année 42, de sortir des livres hors du circuit officiel, des livres qui doivent être des beaux livres. Pierre de Lescure et Vercors sont des bibliophiles. Ils veulent que leurs livres ne soient pas des livres au rabais, des petites brochures qui disparaîtraient avec la guerre. Donc ils ont à la fois le souci de faire un bel objet, de faire un objet de valeur littéraire, et puis de le faire hors des circuits contrôlés. Donc ça suppose d'avoir des imprimeurs amis qui prennent le risque de détourner du papier pour sortir ces livres, d'avoir des ouvriers, des ouvrières du livre qui vont les brocher, les relier, et puis d'essayer de les faire circuler sous le manteau, parfois avec l'aide là aussi de libraires amis qui, dans leur arrière-boutique, vont accepter quelques ouvrages qu'ils feront passer à des lecteurs de confiance. Donc l'idée, c'est de faire circuler un autre discours que le discours officiel. Et vous l'avez dit, le premier titre, c'est « Le silence de la mer », qui raconte l'histoire de cet oncle et cette nièce qui sont obligés de loger un officier allemand. Leur maison est réquisitionnée. Cet officier allemand essaie de nouer des bonnes relations avec eux et eux lui opposent leur silence parce que même si cet officier peut avoir des qualités, il est le représentant de l'armée d'occupation et donc le dialogue ne se nourrira pas tant que durera l'occupation.
Éditer des livres, évidemment, de façon clandestine à cette époque, c'était même dangereux, non ? Parce que pour le coup, le livre, enfin, avec toute la chaîne de production que vous avez décrite, ça laisse des traces, tout ça.
Bien sûr, parce qu'effectivement, tout est encadré administrativement. Toutes les professions du livre ont été réorganisées par Vichy pour veiller à la circulation des contingents de papier. Donc il faut trouver des failles dans ce système, et les imprimeurs en particulier sont ceux qui prennent les risques les plus élevés, parce que c'est la partie la plus visible de l'opération. À Toulouse, on connaît l'histoire des frères Lyon, qui étaient deux imprimeurs toulousains proches de la résistance et qui sont morts en déportation du fait de leur participation aux journaux clandestins, aux tracts clandestins de la résistance. Donc, certains paieront au prix fort cette vie culturelle clandestine.
Les frères Lyon, rue Croix-Baragnon, oui. C'est là où était leur imprimerie. Oui. S'il y a toute cette activité en France, en tous les cas, qu'elle soit officielle ou clandestine, c'est bien parce qu'il y a de la demande du côté du public. Vous avez travaillé aussi sur ça, sur savoir ce qui motivait les gens à consommer, entre guillemets, de la culture. Et qu'est-ce que vous en avez ressorti ?
Oui, alors la France était rentrée déjà depuis, on peut dire, le début du XXe siècle, dans l'ère de la culture de masse. C'est-à-dire que les livres étaient distribués de façon importante, la radio, le cinéma étaient devenus des distractions populaires. Et ces courbes de croissance de la culture de masse, elles continuent à se développer pendant la période de la guerre. On continue à vendre des livres, on continue à voir des films, à assister à des spectacles, et jusqu'à l'été de la Libération, les salles parisiennes, par exemple, de théâtre seront pleines.
Mais c'est pour se divertir plus ou aussi pour s'informer ?
Je crois qu'il y a plusieurs attentes. Il y a ceux qui veulent effectivement se divertir, il y a ceux qui veulent s'évader d'un quotidien qui est de plus en plus oppressant. On dit aussi qu'en hiver, les salles de cinéma sont chauffées. Et dans une période de pénurie de chauffage aussi, on se retrouve au chaud et un peu hors de tout ce qui inquiète pendant la période. Et puis, il y a aussi dans la culture la recherche de ce qu'on pourrait appeler une forme de réarmement moral, c'est-à-dire qu'on a été traumatisé par la défaite de 1940, l'invasion du territoire, la zone de démarcation, la ligne de démarcation. Et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut essayer de trouver des forces morales qui permettent de survivre à ce traumatisme et de repartir. Donc, c'est à la fois des consommations d'évasion et puis des consommations aussi de sens, de recherche de sens pour une période difficile.
La vie culturelle, elle existe également dans un lieu où on ne soupçonnerait pas qu'elle existe. Ce sont les prisons, m'avait dit, parce qu'il y a énormément de prisonniers. Français.
Oui, il y a effectivement plus d'un million et demi de prisonniers de guerre qui ont été capturés en 1940 et qui resteront prisonniers jusqu'à la chute de l'Allemagne, jusqu'à la fin de la guerre en mai 1945. Donc un million et demi de prisonniers qui sont coupés de leur famille, qui relèvent de camps d'internement en Allemagne et qui doivent refaire société, quelque part, survivre à cette épreuve de la captivité. Donc dans les stalags et plus encore dans les oflags, qui étaient les camps pour les officiers, vont se créer des bibliothèques qui sont alimentées par certaines institutions caritatives en France qui envoient des livres pour les prisonniers.
Donc c'était toléré, j'imagine, par les autorités allemandes.
Il faut l'autorisation des autorités allemandes qui regardent les livres qui arrivent, qui composent les bibliothèques.
On n'a pas évoqué, Jacques Cantier, les lieux d'exil, évidemment, parce que les intellectuels et les artistes, ça, beaucoup vont partir de France. Où est-ce que la vie culturelle française continue de vivre ailleurs qu'en France ?
Alors ailleurs, on a plusieurs pôles qui vont apparaître. Il y a un pôle combattant à Londres autour du général de Gaulle. Le but essentiel, c'est de participer à la guerre aux côtés des Britanniques. Mais il y a aussi une revue qui s'appelle La France Libre, qui est une revue intellectuelle de bon niveau. C'est le philosophe Raymond Aron qui la dirige. Romain Gary, l'écrivain qui est un pilote de La France Libre, publiera ses premiers textes dans cette revue de La France Libre. Il le racontera par la suite dans La Promesse de l'Aube. On a un autre pôle qui se constitue à New York, où on avait déjà une communauté française assez importante avant la guerre et qui est renforcée par l'arrivée d'universitaires, d'écrivains, une école libre des hautes études va s'ouvrir à New York, soutenu par une université locale. Et puis le troisième pôle, c'est Alger. En novembre 1942, on a un débarquement anglo-saxon qui va couper l'Afrique du Nord de Vichy. Et à Alger, autour du CFLN, le gouvernement en exil du général de Gaulle, apparaissent aussi de nouvelles revues, des artistes, des écrivains. Joseph Kessel publie L'Armée des Ombres à ce moment-là. André Gide, qui se trouvait en Afrique du Nord à l'automne 1942, est à Alger à partir de l'été 1943. Donc on voit autour de Saint-Exupéry, a rejoint Alger également au printemps 1943. Donc là, il y a aussi une fermentation littéraire, intellectuelle, et plusieurs revues sont créées pour montrer que voilà, la vie française, ce n'est pas la NRF collaboratrice, la Nouvelle Revue Française collaboratrice Drieux, ce sont ces revues alimentées par des écrivains en exil, mais attachés à la liberté française.
Vous me citez des noms, Jacques Cantier, qui font partie aujourd'hui du patrimoine littéraire français. Ça veut dire que cette période culturelle si particulière, elle a laissé des traces. Quel en est l'héritage, selon vous, aujourd'hui ?
Alors, les traces sont importantes, parce qu'effectivement, ce sont des relèves qui se préparent du côté de la résistance intérieure ou du côté de ces pôles étrangers de vie intellectuelle. Donc, dès 1944, lorsque la France est libérée, on va avoir une espèce de chassé-croisée. Les écrivains de la collaboration fuient vers l'Allemagne, Céline jusqu'au Danemark. Il sera éloigné du territoire français pendant plusieurs années et arrive une nouvelle génération qui sera marqué par cette expérience de la guerre, de la résistance. Albert Camus sera une des figures emblématiques, et c'est autour de ces valeurs que la reconstruction va se faire.
Et intellectuellement, il y aura un débat assez long, d'ailleurs, qui va durer de longues années, sur qui a collaboré, avait-il le droit de le faire, est-ce légitime, etc.
Oui, il y aura des poursuites judiciaires, ouais. Il y aura la question de savoir, effectivement, quelle est la responsabilité de l'écrivain. Le général de Gaulle refusera de gracier l'écrivain Robert Brasillach, qui avait été un des grands écrivains de la collaboration, très engagé du côté de l'Allemagne, très antisémite pendant toute cette période de la guerre. Il est condamné à mort en janvier 1945. De Gaulle refuse la grâce en disant que le talent est un titre de responsabilité, que celui qui a une influence par la culture a aussi une responsabilité liée à cette influence, et il refusera de gracier ce personnage.
Merci beaucoup, Jacques Cantier. On en parlerait pendant des heures de cette période-là. Il faut quand même arriver au terme de ce podcast. Et on a une tradition sur On Air, c'est de vous demander une référence à conseiller à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, ça peut être un livre, justement, mais ça peut être aussi un film. Vous citiez Henri-Georges Clouzot, il y a des films magnifiques. Une expo, ce que vous voulez.
Ça pourrait être effectivement le Corbeau de Clouzot, qui est un film qui renferme un peu toute l'ambiguïté de la période. Ça pourrait être aussi, et peut-être je le recommanderais effectivement à ceux qui vont écouter ce podcast, le journal d'Hélène Baird, qui est
un
très beau journal rédigé par une jeune femme qui vit à Paris, donc dans cette période de l'occupation. Elle appartient à une famille de la bourgeoisie juive parisienne, et son journal reflète au départ ce qui est l'insouciance de la jeunesse. Elle mène une vie d'étudiante, elle a des amis, elle se passionne pour ses études de la civilisation britannique. Et puis on voit comment l'étoile jaune arrive, la persécution se renforce, et comment cette vie intérieure devient une vie marquée par la persécution et les refuges vers la culture. Donc c'est un très beau témoignage. Hélène Baird sera finalement déportée et meurt en déportation. La famille a conservé ce journal, et il a été publié il y a une quinzaine d'années. C'est devenu, je crois, un des classiques sur l'histoire de cette période.
Hélène Baird, on retient Baird, B-E-2-R, c'est ça, je crois. Un très grand merci, Jacques Cantier.
Merci à vous.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université l'Université Toulouse Jean Jaurès et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'Université. Vous pouvez retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques.